Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au livre des Actes des Apôtres. Saul faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. Et lui, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saul se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La première rencontre avec Jésus est toujours un événement fondateur. Tel est bien le cas pour saint Paul de l'épisode de la route de Damas, de ce moment d'une vraie conversion. Saint Paul est en quelque sorte passé par la mort pour naître à une vie radicalement nouvelle, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant, ou plus exactement, qui correspond enfin au projet que le Seigneur avait pour lui, à la vocation qui est la sienne. Mais avant de revenir sur certains aspects de la lectio de ce jour, je voudrais vous donner 3 éléments de réflexion concernant la pédagogie de la lectio divina. Premièrement, je voudrais poursuivre le très bref parcours historique que je vous ai tracé depuis hier. Ce matin, j'avais évoqué les 6 premiers siècles. Eh bien, peut-être vous demandez-vous pourquoi, après les 6 premiers siècles, la lectio divina va disparaître, en tout cas dans la plus grande partie du peuple chrétien. C'est qu'il se passe un phénomène tout à fait important par rapport à la possibilité même pour les chrétiens de vivre la lectio divina, c'est qu'après la chute de l'Empire romain et sous le règne des peuples barbares, l'éducation classique disparaît et le peuple n'apprend plus à lire, n'est donc plus capable de lire et ne peut plus accueillir chez lui la parole de Dieu aussi facilement qu'avant. Nous voyons très bien cela, par exemple en Provence, entre le début du VIe siècle et la fin du VIe siècle, les chrétiens n'arrivent plus, ne peuvent plus lire, et donc à ce moment-là, il va falloir trouver d'autres manières pour leur transmettre la connaissance de cette parole de Dieu. Mais la lectio divina comme la prière quotidienne de tout le peuple de Dieu va du coup perdre de l'importance. Mais elle sera conservée et transmise précieusement dans la tradition monastique grâce à la règle de saint Benoît, qui précise que le moine, dans le rythme de sa journée, doit prendre un temps, prévoir un temps, pour vivre sa lectio divina. Saint Benoît ne précise pas d'ailleurs en quoi consiste cette lectio divina, il n'a pas besoin de le faire, puisque la formule désigne bien ce qu'est la prière chrétienne elle-même, et que tout chrétien connaît. Et c'est cette tradition monastique qui, par la règle de saint Benoît, va du coup prendre l'habitude de continuer à apprendre à lire pour que chaque moine puisse chaque jour se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'au Moyen-Âge, un prieur de la Grande Chartreuse qui s'appelle Guigues va rédiger un petit traité de la vie contemplative qui développe toute la pédagogie de la lectio divina telle que nous en vivons encore aujourd'hui et telle que nous essayons de la déployer dans une retraite comme celle que nous vivons. Je lui laisse la parole et cela peut vous permettre de faire le point un tout petit peu dans cette retraite sur la manière dont vous vivez vous-même avec persévérance cette pédagogie de la lectio divina. Un jour, écrivait Guigues le Chartreux, pendant le travail manuel, je commençais à penser à l'exercice spirituel de l'homme et tout à coup s'offrir à la réflexion de mon esprit 4 degrés spirituels, lecture, méditation, prière, contemplation. C'est l'échelle des moines qui les élève de la terre au ciel. Certes, elle a peu d'échelons, elle est immense pourtant et d'une incroyable hauteur. Sa base repose sur la terre, son sommet pénètre les nuées et scrute les secrets des cieux. Les degrés sont divers en noms et en nombre, et ils sont distincts également en ordre et en importance. Si quelqu'un étudie avec soin l'efficacité de chacun d'eux sur nous, leur mutuelle différence et leur hiérarchie, il y trouvera tant d'utilité et de douceur qu'il estimera court et facile tout le labeur et l'application dépensés sur cet objet. La lecture, c'est l'étude attentive des Écritures faite par un esprit appliqué. La méditation est une opération de l'intelligence procédant à l'investigation studieuse d'une vérité cachée à l'aide de la propre raison. La prière est une religieuse application du cœur à Dieu pour éloigner des maux ou obtenir des biens. La contemplation est une certaine élévation en Dieu de l'âme attirée au-dessus d'elle-même et savourant les joies de la douceur éternelle. Un peu plus loin, il explique encore « La lecture recherche la douceur de la vie bienheureuse, la méditation la trouve, la prière la demande, la contemplation la goûte. La lecture apporte une nourriture substantielle à la bouche, la méditation mâche et triture cet aliment, la prière obtient de goûter, et la contemplation est la douceur même qui réjouit et refait. La lecture est dans l'écorce, la méditation dans la moelle, la prière dans l'expression du désir, et la contemplation dans la jouissance de la douceur obtenue. » Et Guigues termine son exposé en précisant l'importance de la progression d'étape en étape. Voici ce qu'il écrit. Nous pouvons déduire de tout cela que la lecture sans méditation est aride, la méditation sans lecture est sujette à l'erreur, la prière sans la méditation est tiède, la méditation sans la prière est sans fruit, la prière faite avec ferveur obtient la contemplation, mais le don de la contemplation sans la prière est rare ou miraculeux. Bienheureux l'homme dont l'esprit, vide de tout autre soin, désire être toujours occupé à gravir ces 4 degrés. Bienheureux celui qui, ayant vendu tout ce qu'il a, achète le champ où se trouve caché ce trésor si désirable, se recueillir et comprendre combien le Seigneur est bon. Bienheureux celui qui, appliqué au premier degré, attentif à chercher au second, fervente au troisième, élevé au-dessus de lui-même au 4e, monte en se fortifiant de plus en plus par ces chemins que Dieu a disposés vers lui dans son cœur, jusqu'à ce qu'il voie Dieu lui-même en Sion, comme le dit le psaume 83. Ma deuxième réflexion sur la pédagogie de la Lectio Divina concerne l'aboutissement de tout ce parcours qui, de la lecture, va jusqu'à la contemplation. On entend dire souvent qu'à la suite de l'ensemble de ce parcours, il faudrait ajouter un 5e échelon qu'on appellerait l'action. Et ce n'est pas inintéressant de voir effectivement comment tout le parcours d'accueil de la parole de Dieu consiste à pouvoir mettre en pratique cette parole, comme Jésus le dit si souvent. Ainsi donc, de la lecture à la contemplation, nous pouvons bien passer ensuite à l'action. Tout cela a du sens. Pour ma part, je préfère développer cette question de l'accomplissement de ce parcours de deux manières un peu différentes. Tout d'abord, je pense que la contemplation, le 4e échelon, reste l'accomplissement de ce parcours. Et que si, dans notre prière et dans un cadre de retraite, l'accomplissement se vit surtout dans un temps de prière silencieuse, d'adoration, de ce cœur à cœur avec le Seigneur qui manifeste ainsi sa présence et à qui nous essayons d'être présents, je pense que c'est cette contemplation qui peut aussi se déployer jusque dans la rencontre des autres, jusque dans les responsabilités qui sont les nôtres, jusque dans le rythme habituel de notre journée. Comme si, une fois que nous avons fait l'expérience de la présence du Seigneur dans la contemplation, cette présence ne devait plus nous quitter, et comme si le Christ, et je pense que c'est une réalité, reste présent à toute notre vie et nous accompagne dans le quotidien de notre existence. J'aime avoir donc la contemplation comme ayant ces deux versants, un versant qui concerne la prière silencieuse d'adoration, ce cœur à cœur avec le Christ, et l'autre versant qui est notre mission chrétienne tout au long de nos journées. Si je devais prolonger encore cette réflexion sur l'accomplissement du parcours de la Lectio Divina, je pense que nous pouvons aller plus loin et considérer même que l'ensemble de ce parcours de rencontre avec le Christ dans sa parole est emblématique de toute la pédagogie que l'on peut mettre en œuvre aussi dans la rencontre des autres. Si la pédagogie est la rencontre de l'autre avec un A majuscule, la pédagogie peut être exactement la même, en particulier dans toute rencontre missionnaire, dans toute rencontre fraternelle, dans laquelle, alors que nous avons toujours envie de commencer par prendre la parole, il nous faut peut-être d'abord apprendre à écouter. Lorsque nous avons écouté, nous pouvons cheminer avec la personne et lui apporter également la parole qui nous semble adéquate, tout cela ayant pour but de faire grandir la communion fraternelle, de créer cette qualité de relation qui est au cœur de la vie de l'Église. Ma troisième réflexion sera encore plus brève. Nous arrivons bientôt au terme de notre retraite. Ce soir, nous allons entrer dans notre dernière journée de l'Exodivina. Je souhaite que ce soit une journée d'accomplissement. J'en reparlerai demain dans la dernière conférence. Mais je vous invite, tout en prenant les textes, ou certains des textes en tout cas qui sont proposés sur la feuille pour cette dernière journée, que vous puissiez en même temps prendre un tout petit peu de temps entre ce soir ou peut-être même déjà à la fin de cet après-midi et demain après-midi, donc dans les 24 heures qui viennent, prendre un peu de temps pour relire l'ensemble de ce qui était votre parcours de l'Exodivina tout au long des journées de cette retraite. Quelles sont les paroles qui vous ont le plus marqué, nourri? Quelle est la prière de réponse que vous aimeriez aussi formuler au terme de cette retraite? Et comment est-ce que vous envisagez de pouvoir poursuivre, à un rythme évidemment différent, l'accueil quotidien et persévérant de la parole de Dieu? Il est temps de passer maintenant à quelques pistes de réflexion et de méditation qui non seulement viennent enrichir encore ce que vous avez déjà pu recueillir durant cette journée, mais qui aussi peut vous préparer au temps de contemplation qui termine cette journée. Les deux grands textes sur lesquels je vais m'appuyer pour cette méditation, c'est le chapitre 9 des Actes des Apôtres, ce très grand récit de la conversion de Paul, et puis le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, qui est une superbe synthèse théologique du mystère du salut. Le chapitre 9 des Actes des Apôtres nous présente dans ce récit de la conversion de Paul la première rencontre de Jésus avec Paul. Une rencontre absolument bouleversante, au premier sens du terme d'ailleurs, qui va laisser le persécuteur comme mort, puisqu'il ne peut plus se tenir debout. On est obligé de le conduire à Damas et il reste 3 jours sans voir, sans manger et sans boire. Et c'est là qu'intervient Ananie, ce disciple de Damas, qui est à la fois assez vive et assez grande pour croire en la possibilité même de la conversion du persécuteur. Or, et ne l'oublions jamais, la première parole que seul Paul entend du fond de sa cécité et de sa situation de quasi-mort, c'est la parole d'Ananie. Ce sont 3 mots qui vont rester gravés pour toujours dans la mémoire de Paul, 3 mots qui sont essentiels et peut-être essentiels à ce qu'est la vie de l'Église et au témoignage que nous avons apporté. Ananie arrive là où se trouve Saul et lui dit « Saoul, mon frère ». Dans l'expérience fondatrice que Paul fait sur la route de Damas et à Damas, il n'y a donc pas seulement la rencontre du Seigneur, mais aussi la rencontre du frère. Paul ne l'oubliera jamais, qui accorde dans ses épîtres tant de place au mystère de l'Église et qui utilise si souvent ce terme de frère. Mais le principal enseignement de ce chapitre 9 des Actes des Apôtres, de cette conversion de saint Paul, c'est que dans cet événement, Paul a fait l'expérience inouïe d'avoir tout reçu. En effet, par rapport à sa formation juive pharisienne, il était, comme il le dit, formé à l'exacte observance de la loi de ses pères et à ce titre rempli de zèle pour Dieu. Il était celui qui, selon cette pratique de la loi, cherchait à correspondre le mieux possible à ceux qui étaient demandés pour obtenir en récompense le don de Dieu, le don de sa présence, de la communion avec le Seigneur. Pour résumer à très grands traits, à trop grands traits il est vrai, mais je pense que ça peut être suggestif tout de même, Paul était entièrement polarisé vers tout ce qui lui manquait encore pour combler cet espace entre l'homme et Dieu. Et il voulait, par sa pratique de la loi, pouvoir combler ce manque. Or, ce dont il fait l'expérience sur la route de Damas, c'est que tout ce vers quoi il tendait par sa pratique assidue de la loi, tout cela lui est donné d'un coup. Tout ce vers quoi il tendait lui est donné, tout ce qui lui manquait vient le combler. Et au moment où il reçoit tout cela, il se rend compte qu'il n'en est pas digne, puisque il se découvre comme persécuteur et persécuteur de celui-là même qui est en train de tout lui donner. Voilà ce qui a bouleversé Paul et qui l'a converti et qui a transformé pour toujours sa manière radicale de se situer par rapport au Seigneur. Et cela peut être important pour nous au moment où nous allons entrer dans la contemplation. Nous sommes souvent nous-mêmes encombrés et très conscients de tout ce qui nous manque encore, de tout ce que nous aimerions obtenir, de tout ce que nous pouvons encore réussir et faire. Eh bien, il faut, avec Saint Paul et à l'école de Saint Paul, découvrir qu'il y a une logique radicalement nouvelle qui est la logique même de la foi chrétienne, qui doit être la nôtre, mais qui demande à être creusé en nous chaque jour, non plus nous appuyer sur ce qui nous manque, mais découvrir ce qui nous est donné. Non plus mesurer l'écart de ce qu'il nous reste à faire, mais découvrir combien le Seigneur nous a tout donné, combien il a voulu déjà nous combler. Non pas seulement il veut nous combler pour plus tard, mais déjà il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous. Il nous a donné l'amour même qui l'unit à son Père. Alors que désirer de plus? Comment témoignera Saint Paul? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et c'est toujours Saint Paul qui s'exprime ainsi dans l'Épître aux Romains. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment, avec lui, ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Voyez, voilà tout ce qui pourrait nous sembler être des manques. Et saint Paul peut continuer, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, conclut-il, à la fin donc de ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Saint Paul découvre que tout désormais lui est donné et qu'il peut choisir d'appuyer sa vie non plus sur ce qui lui manque, mais sur ce qui lui est donné. Et cette logique que Paul découvre dans sa conversion sur la route de Damas, il va la déployer en deux réflexions. La première, c'est qu'il va découvrir comment, puisque tout lui est donné, eh bien, c'est paradoxalement, semble-t-il, par ses propres faiblesses qu'il va pouvoir témoigner d'un don extraordinaire, mais qui ne vient pas de lui. Autrement dit, et c'est l'expérience dont Paul témoigne dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Il pourra aller jusqu'à dire « Désormais, c'est lorsque je suis faible que je suis fort ». La raison de cela, c'est qu'au cœur même de ses faiblesses, il découvre, comme il le dit lui-même, que la grâce de Dieu lui est donnée et cela lui suffit. Et c'est la seconde réflexion que saint Paul fait à partir de cette découverte. C'est la thématique de l'action de grâce. Si l'action de grâce tient une telle place chez saint Paul, c'est précisément parce qu'elle résume toute cette logique nouvelle du cœur de Dieu. Puisque désormais tout nous est donné, alors il s'agit de ne plus s'enorgueillir de ce qu'on pourrait produire pour combler ce qui nous manquerait, mais il s'agit de rendre grâce pour le don qui nous comble déjà maintenant. C'est dans cette action de grâce que je vous invite à entrer dans cette ultime étape de notre journée qu'est la contemplation.